Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Le film Les Misérables est l'événement cinéma de cette semaine. Le film sort, je vous le rappelle, mercredi. Lajli, vous en êtes le réalisateur et on vous retrouve dans Laissez-vous tenter en compagnie de Giordano Gederlini, votre co-scénariste. Stéphane Boutsock nous a rejoint. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Nous irons également à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, où vous avez créé une école de cinéma gratuite dans laquelle Sophie Orange, que je salue également, s'est rendue.
Bonjour.
Bonjour Sophie. Bonjour. Et j'ajoute que nous ferons gagner des places de cinéma pour que nos auditeurs puissent eux aussi aller découvrir Les Misérables en salle. Les Misérables était à l'origine un court-métrage, nommé d'ailleurs au César dans cette discipline en 2018. Pourquoi était-il essentiel à vos yeux, Lajli, de poursuivre cette aventure et de faire de cette histoire en fait un long-métrage, ce que j'appelle un grand film?
Déjà pour moi, c'était une histoire qui me tenait à cœur. Comme j'habite Montfermeil depuis toujours, j'avais cette envie de raconter cette histoire. Et c'est vrai qu'on a commencé par faire un court-métrage, parce qu'on sait tous que monter un long-métrage de cinéma, c'est un peu le parcours du combattant.
Oui.
Donc ce projet, ça fait près de quasiment 10 ans que je l'ai en tête, que j'ai envie de le monter. Ça a été très très dur. Et finalement, on a commencé par faire un premier cours. On s'est dit, pour assurer un peu tout le monde, les financiers.
On va voir comment ça vit.
Voilà, et finalement, on a fait ce cours qui a très bien marché. Hein. On était au César, on a remporté plus de 40 prix, on a fait plus de 150 festivals. Donc on s'est dit, après ça, on devrait avoir pas trop de difficultés
à monter un long-métrage.
Et finalement, ça a été parcours du combattant, malgré tout ça.
Oui. Ah oui,
ouais.
Pourquoi?
Parce que les financiers, très peu de gens y croyaient. Après qu'on veut faire un film sur les banlieues, parler des différentes problématiques, c'est vrai que ça ne plaît pas tout le temps. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de refus. Hein,
vous voulez dire qu'il y avait la crainte d'un rejet, c'est ça?
Bien sûr, la crainte d'un rejet. Enfin, on a entendu plein de...
Oui, tout à fait. Oui.
Clairement, ils nous ont dit qu'on n'allait pas financer un film où des gamins de banlieue allaient brûler les policiers.
Ce qui n'est pas le cas dans le film.
On a aussi pu entendre que ce genre de film a attiré la clientèle à casquette dans les salles de cinéma. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et d'autant plus que le film aurait dû coûter 3 millions et finalement on a dû le faire avec 1 400
000. Eh ben, on vient d'avoir quelques éléments de contexte qui sont intéressants. Stéphane, rappelez-nous les grandes lignes de ce film qui vous avait, je me souviens très bien, fortement marqué lors du Festival de Cannes.
Oui, c'est vrai que Les Misérables fait partie de ces claques de cinoche que l'on prend parfois devant un grand écran. Narration, mise en scène, interprétation, tout ici. Et à la fois instinctif et maîtrisé, et cette plongée haletante en banlieue, l'âge à la force d'un document, tout en étant aussi un grand moment de 7e art. L'histoire, c'est celle de Stéphane, policier tout juste muté à la brigade anti-criminalité de Montfermeil, qui va vite découvrir le boulot et les méthodes parfois radicales de ses coéquipiers, mais aussi les règles des quartiers. La place très hiérarchisée de chacun, le poids des traditions ou de la religion. Extrait.
Ici, on est au Bosquet, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais à l'époque, on ne rentrait pas, c'était la plus grande plaque tournante du stupéfiant. Il y a eu le shit, la coke et l'héroïne qui a ravagé tout le quartier. Tous les anciens sont morts.
Ok.
Et puis, tu as eu les frères Mus qui ont nettoyé le quartier.
Frères musulmans?
Ouais, la BAC.
Comment ça, la BAC?
La brigade anti-cam, c'est comme ça qu'on les appelle ici. Par contre, on a un nouveau fléau, c'est la prostitution tenue par les Nigérians. Ils louent des appartements à 400 euros, t'as des prostituées pour 20 euros, 10 euros, c'est devenu normal. Je peux te faire sucer pour 2 euros. T'as 2 euros sur toi?
Et puis un jour, une interpellation tourne mal, un ado est gravement blessé, Stéphane et ses collègues tentent de dissimuler les faits, mais un drone piloté par un gamin a tout filmé. La vidéo balancée sur les réseaux sociaux va allumer le feu que personne ne pourra contrôler et dans lequel les très jeunes de la cité vont décider de consumer leur rage. Alors oui, Les Misérables est un grand film dont on sort assez sonné. Le dernier Festival de Cannes vous a d'ailleurs justement récompensé de son prix du jury. Quand... Alejandro González Iñárritu, réalisateur de The Revenant, qui présidait le jury, vous adoube, ou que Michael Mann, comme je l'ai lu, réalisateur de Heat, dit que le film est, guillemets, un monument. Est-ce qu'en tant que jeune metteur en scène, vous dites, j'entre quand même dans un club?
C'est sûr, pour un premier long métrage, quand on a tous ses retours, ça fait super plaisir de se dire que des grands noms comme Michael Mann ou même Spike Lee ont vu le film et soutiennent ce film. Même pour les Oscars, on a Spike Lee qui est derrière nous et qui va nous soutenir pour la course aux Oscars. Donc on est super contents et super fiers.
Vous vous rendez bien compte de ce qui vous arrive, sincèrement?
Je sais pas. Après, moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Ça va faire plus de 20 ans que
vous vivez pour ça. Raison de plus.
J'ai commencé à filmer et je me dis, c'est peut-être la finalité de tout ce que j'ai pu faire. Et c'est pas une fin. Il y a encore beaucoup à faire.
Oui, c'est un peu difficile de s'en rendre compte tellement c'était compliqué de financer ce film. Les deux producteurs, Toufik Hayadi, Christophe Barral, ont bataillé. Le film faisait déjà peur sur le papier. On nous disait, mais ça va être violent, pourquoi ce sujet ? Comme s'il fallait que Lalge bride sa colère face à un film plus passe-partout. Et on a tellement vécu ça avec difficulté, ça a été tellement compliqué qu'aujourd'hui, c'est juste...
Vous avez du mal à apprécier la douceur qui arrive maintenant après le...
Quasiment, parce après que les orties. C'est un film, on va dire, engagé, en même temps un film assez rugueux, dans lequel c'est assez surprenant, mais il y a beaucoup de comédie dans ce film, oui. On rit beaucoup.
Bah oui.
Et c'est un film extrêmement contrasté.
C'est la vie, on est comme dans la vie. Alors dans le jury canois que vous avez évoqué, il y avait un Mexicain, deux Américaines, un Grec, un Polonais, une Italienne, une Burkinabèse, notamment une Burkinabèse. D'ailleurs, on dit tout pour simplement, mais oui. Ça veut dire aussi que le sujet des misérables est universel ?
Bah oui, je sais que c'est un sujet universel. C'est un film qui parle avant tout de la misère sociale. Donc ça concerne des gens partout dans le monde entier. On a pu le voir en faisant des projections à l'étranger. On a dû faire plus de 20 dates à l'étranger. Et finalement, les retours, ils sont juste incroyables. Et surtout à l'étranger, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'ils ont une certaine image de la France, et quand ils découvrent qu'en France, on a aussi des ghettos, des gens qui vivent dans ces difficultés, bah, ils sont sous le choc. Donc c'est un film qui parle à tout le monde.
Le film sur la banlieue, c'est un genre en soi, alors on croise ça régulièrement sur nos écrans, dans le cinéma français, on se rappelle de La Haine, bien sûr, il y a près de 25 ans, il y a aussi eu Ma Cité va craquer, Bande de filles, Dipane de Jacques Audiard, il n'y a pas si longtemps. Vous réussissez en fait à vous glisser dans cette tradition, tout en évitant la redite, le cliché, en termes de mise en scène, qu'est-ce qu'il fallait garder de ce genre-là et qu'est-ce que vous vouliez absolument éviter ?
Clairement, c'était important pour moi déjà d'éviter tous les clichés qu'on peut entendre sur ces quartiers. Moi, c'était important de se dire que j'allais raconter cette histoire sans parler... Enfin, mon film, il n'y a pas de rap, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'armes. J'ai voulu surtout décrire cette réalité sans rentrer dans tous ces clichés qu'on a l'habitude de voir dans les soi-disant films de banlieue. J'aime pas trop ce terme, parce que c'est avant tout un film de cinéma. Donc voilà, moi, j'ai essayé d'éviter...
C'est surtout un film de souvenirs, parce que moi, quand j'avais commencé à travailler avec Lalge sur l'écriture, il m'a raconté des épisodes de son adolescence en particulier, l'histoire avec ce petit lionceau qui avait été piqué à un cirque, les altercations avec les policiers, avec ceux qui viennent faire aussi du prosélytisme. Enfin, il a vécu ça enfant, et c'est ce qui est resté, c'est ce qu'on a essayé d'introduire dans le film, jusqu'à toute cette grande dernière partie. Donc, je ne vais pas dévoiler aujourd'hui, mais c'est un événement vécu. Donc, il emprunte à chaque fois, et même des personnages comme celui d'un des policiers qui s'appelle réellement Cochon Rose, on l'a utilisé dans le scénario. C'est vraiment plusieurs souvenirs qui ont donné corps à ce film.
Stéphane parlait de La Haine, film sorti en 1995. Mathieu Kassovitz vous a d'ailleurs témoigné son soutien, je crois qu'on peut dire son affection. On a l'impression que le constat déjà très sombre qui était perceptible dans son film s'est encore alourdi. Êtes-vous optimiste sur l'avenir de ce qu'on appelle un peu stupidement la banlieue, alors qu'on devrait sans doute dire les banlieues, au minimum ?
Oui, moi, enfin, je garde espoir, parce que j'estime qu'il y a possibilité de trouver des solutions. Après, je dis, il faut une réelle volonté politique pour faire bouger les lignes. Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire changer les choses. Mais bien sûr que je garde espoir, parce que c'est important. Il faut penser à cette jeunesse qui est là, qui est désespérée. Et moi, mon film, c'est avant tout un film qui laisse de l'espoir, surtout à la fin. Ok, c'est dur, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de difficultés, mais ensemble, je pense qu'on pourra trouver des solutions si les politiques s'y mettent.
Mais il y a aussi une chose importante qu'il faut souligner, c'est que le film n'accable personne, c'est-à-dire que ce n'est pas un film anti-bac, ce n'est pas un film anti-flic, ni pro-gamin, etc.
C'est un film qui ne prend pas parti, je ne porte pas de jugement sur mes personnages. Voilà, moi, j'ai voulu être le plus juste possible et décrire la misère, parce que les policiers aussi qui travaillent dans ces conditions difficiles, bah, c'est pas facile pour eux. Donc, je me mets à la place des habitants et à la place des policiers, parce que souvent, on a souvent voulu confronter les jeunes des banlieues à la police. Enfin, moi, j'ai voulu aller au-delà de ça et se dire que le problème vient d'en haut et qu'on vit tous cette misère ensemble.
Vous qui nous écoutez, nous vous offrons à présent au 3210 des places de cinéma pour aller voir Les Misérables en salle mercredi prochain. Pour cela, il faut répondre à la question que vous pose Stéphane.
Le film Les Misérables a été récompensé, on vient de le dire, au dernier festival de Cannes. A-t-il reçu le prix de la mise en scène ou le prix du jury ?
Réponse au 3210. On va marquer une pause dans ce Laissez-vous tenter. Vous restez avec nous l'un et l'autre. On se retrouve dans un instant. On va partir à Montfermeil, notamment avec Sophie Orange, dans l'école de cinéma que vous avez créé, Lalge.
Pour que Jean RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Nous sommes toujours en compagnie de Ladjli, réalisateur du film Les Misérables, qui sort au cinéma mercredi 20 novembre, et de Giordano Gederlini, co-scénariste. Ladjli, vous avez créé en 2018 à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, une école gratuite de cinéma, l'école Courtrajmé. Quelle était votre intention de départ, et est-ce que vous vouliez aussi donner tout simplement aux jeunes gens des environs, ou d'ailleurs la possibilité de découvrir aussi le milieu du 7e art?
L'idée, c'était de donner la chance à toute cette nouvelle génération qui avait cette envie de faire du cinéma. Aujourd'hui, on sait tous que le cinéma, c'est un milieu difficile d'accès.
Oui.
Pour intégrer les écoles, c'est assez cher. Donc, on a décidé avec le collectif Courtrajmé de créer cette école qui est gratuite, ouverte à tous, sans condition de diplôme, sans limite d'âge. Donc, c'est pour donner la chance justement à tous ces gamins qui ont envie de faire du cinéma.
Alors, Sophie Orange nous a rejoint. Bonjour Sophie.
Bonjour à tous.
Vous êtes rendue à Montfermeil pour assister à l'un des cours de cette école pas comme les autres.
Une salle de cours toute simple, sauf que les tables ici sont placées en U et non 2x2 comme à l'école, c'est sans doute moins scolaire. 15 élèves, stagiaires, je ne sais pas comment on peut dire, ont sorti leur cahier ou leur ordinateur. Ce matin-là, Nicolas Fleureau et Thomas Guérard, deux scénaristes professionnels, viennent donner un cours théorique d'écriture.
On arrive au troisième pivot, que les Américains appellent le middle act climax, littéralement le climax de l'acte du milieu, qu'on appelle très souvent aussi le midpoint. Et qu'en français, on a traduit abusivement, mais on y reviendra après, le point de non-retour, le PNR. On
dramaturgie, début, rebondissement, élément déclencheur, climax, fin ouverte, fin fermée. Quelles sont les règles pour tenir le spectateur en haleine? Les références sont nombreuses et les débats aussi, par exemple, sur Shutter Island.
Donc c'est un peu ça aussi, moi, je trouve.
Sur Shutter Island, je dois
comprendre pas. Nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Les gars, soleil.
Ceux qui te respectent, je me parle. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion?
Ouais.
Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion.
On débat à la fin du film, est-ce qu'il est fou ou pas? Est-ce que... Donc c'est un peu ça aussi, moi je trouve...
Je veux dire là-dessus sur Shutter Island, je ne comprends pas ce débat.
On était plusieurs à parler, à ton avis, est-ce qu'il est fou ou pas? Il y a quand même un flou.
Il existe depuis le début, je comprends pas, je suis allé voir ce film au cinéma, on m'a dit tu vas voir, c'est chelou à la fin. Mais c'est pas chelou, il est fou, point.
Non mais oui, mais enfin, est-ce que il se fait lobotomiser parce qu'il a envie de mourir
ensuite sur un film bien connu des élèves de Courtrajmé.
Alors, tout dernier temps qu'on va prendre, est-ce qu'on pourrait vous demander de nous identifier les actes et les pivots d'un film qui s'appelle Les Misérables? Acte 1, allez, vite.
Un policier arrive dans une nouvelle équipe à Clichy-Montfermeil. Il découvre l'univers auprès de ses deux nouveaux coéquipiers.
Là-dessus, je suis obligé de tout de suite corriger. Si on doit décrire l'exposition, pour le coup, c'est plus précis que ça. C'est un bleu débarque dans une unité de la BAC, particulièrement viril, pour le moins qu'on puisse dire, qui travaille dans un quartier sensible. Un bleu qui débarque dans une nouvelle unité, c'est trop générique. Le film est plus précis.
C'est le choix assumé de l'Adj et de ses co-scénaristes d'avoir en longtemps d'exposition les différentes parties du système avant qu'il y ait l'incident déclencheur à proprement parler, à savoir.
En fait, un lionceau se fait voler. Le cirque menace de mettre le feu dans la cité, demande la restitution de son lionceau.
Alors, quel est le profil de ces élèves, Sophie?
Eh bien, ils ont entre 19 et 40.